Le journal est présenté par Ézéchiel Fernandez.
Bonsoir à tous. La catastrophe du viaduc de Gênes était-elle prévisible et donc évitable? C'est la question que tout le monde se pose, et pas seulement en Italie, nous dira Jean-Marc Chardon. Les 141 migrants de l'Aquarius ont enfin touché terre sur l'île de Malte, mais leur périple n'est pas terminé pour autant, et cela passe par l'obtention du statut de réfugié en France, comme dans les quatre autres pays d'accueil. Également au sommaire, la mort très suspecte d'un ex-policier sud-africain qui venait de sortir un livre accusant de pédophilie d'ex-haut dignitaire du temps de l'apartheid, correspondance de Lisa Fabian. Et puis nous verrons comment de jeunes militants politiques en France se repositionnent en Macronie. 36 heures après l'effondrement du viaduc de Gênes, et alors que les recherches se poursuivent bien sûr, sans beaucoup d'espoir, dans les décombres, le bilan provisoire fait état maintenant de 39 morts, dont 4 jeunes français et 16 blessés. Le gouvernement italien désigne clairement la société d'autoroute Autostrada comme responsable de la catastrophe et annonce qu'il va révoquer sa concession pour l'exploitation de cet axe routier. C'est le 5e ouvrage à s'effondrer en 5 ans en Italie. Le gouvernement a d'ailleurs annoncé un audit général des ponts et tunnels dans toute la péninsule. En fait, ce sont les questions du vieillissement et de la maintenance des ponts et des routes qui sont posées par la catastrophe de Gênes, et cela, Jean-Marc Chardon, à l'échelle européenne.
Et il n'y a pas que les Italiens qui ont lieu de s'inquiéter de l'état de leurs infrastructures. En France aussi, la question est bien posée, singulièrement depuis la publication d'un rapport sénatorial au printemps, lequel a pointé la dégradation du réseau routier, avec des routes nationales détériorées pour 17% d'entre elles. Mais dans la foulée, on allait prendre conscience, à travers un audit commandé par le ministère des Transports, que nombre de ponts aussi étaient mal en point, 4000 d'entre eux nécessitant des réparations, près du tiers du parc existant. Sachant qu'un pont est emprunté par un véhicule sur 6 en moyenne, impossible de contourner le problème. En mai dernier d'ailleurs, la ministre des Transports reconnaissait déjà que près d'un pont sur 10 était en mauvais état, tout en prenant soin d'ajouter que les ponts faisaient l'objet de visites annuelles et d'autres plus détaillées. Une situation qui interpelle aussi nos voisins européens, à commencer par l'Allemagne, mais aussi le Royaume-Uni, qui consacre 80 000 euros par kilomètre pour ses ponts et ses routes contre 50 000 dans l'Hexagone. Situation suffisamment préoccupante en tout cas pour que des industriels de la construction se soient réunis à Bruxelles au mois d'avril. Venus de France, de Belgique, d'Allemagne, d'Espagne, Pays-Bas et Italie, ils ont lancé le premier groupe de travail européen sur les ponts, posant ainsi la question de leur maintenance à grande échelle. 800 000 ponts qui pourraient passer sous le regard d'un observatoire européen des ouvrages d'art et plusieurs dizaines de milliards d'euros d'investissements à programmer pour les prochaines décennies en Europe.
Et ajoutons à propos de la catastrophe de Gênes que le parquet de Paris a ouvert une enquête pour blessures involontaires et homicides involontaires pour les 4 victimes françaises, 2 jeunes filles et 2 jeunes garçons. Les 141 migrants africains recueillis en Méditerranée par l'Aquarius ont donc retrouvé la terre ferme à La Valette cet après-midi sur l'île de Malte. La fin d'une errance de 6 jours, mais pas encore la fin de leur odyssée, puisque selon l'accord européen qui a été trouvé, ils seront répartis maintenant dans 5 pays, dont la France, qui doit en accueillir 60. Pour la plupart, ce sont des Somaliens et des Érythréens qui vont maintenant devoir passer sous les fourches caudines de l'OFPRA, l'Office français des réfugiés et apatrides. Une dizaine d'agents vont mener dès demain des entretiens pour identifier les réfugiés qui gagneront notre pays. Une procédure détaillée par Pascal Brice, il est le directeur général de l'OFPRA.
C'est un officier de protection qui entend chaque personne en présence d'un interprète. En règle générale, c'est une heure et demie. De manière à ce que ces personnes puissent faire valoir leurs craintes dans leur pays d'origine, nous expliquer les raisons pour lesquelles elles sont parties, nous faire part aussi de ces parcours extrêmement pénibles et douloureux, y compris sur ces navires en Méditerranée, et de manière à nous permettre de statuer sur leur demande d'asile. C'est l'application du droit international, de la Convention de Genève. Ce sont le plus souvent des personnes qui ont fui l'Érythrée, le Soudan, la Somalie. Il revient ensuite au gouvernement français d'organiser l'arrivée de ces personnes en France. C'est en quelques jours, maximum d'une semaine. Dès leur arrivée sur le territoire national, très vite, nous leur confirmons cette décision de protection qui donne accès à un titre de séjour de 10 ans, de manière à ce que les personnes puissent se reconstruire. Et nous souhaitons qu'au-delà de ces missions-là, ponctuelles, ce soit un véritable système qui apparaisse pour que les personnes puissent être protégées et accueillies dignement.
Le directeur général de l'OFPRA, Pascal Brice, interrogé par Camille Revel. L'Aquarius, le bateau affrété par SOS Méditerranée, devrait repartir très vite de La Valette, continuer sa mission de sauvetage au large des côtes libyennes. Et pendant ce temps, 520 migrants à bord d'embarcations de fortune, là aussi, ont été secourus aujourd'hui par les gardes-côtes espagnols dans les eaux situées entre le Maroc et la péninsule. Depuis le début de l'année, plus de 25 000 migrants sont arrivés en Espagne, près de 3 fois plus qu'en 2017. C'est en effet la première porte d'entrée désormais de l'Europe pour les migrants depuis que l'Italie a fermé la sienne. Un coup de pouce du Qatar à la Turquie. La Turquie qui s'enfonce dans la crise économique et monétaire pour cause de bras de fer avec les États-Unis. L'émir du Qatar, lors d'une rencontre aujourd'hui avec le président Erdogan, a promis en effet 15 milliards de dollars d'investissement direct à la Turquie. Emmanuel Macron, toujours retranché, si j'ose dire, au fort de Brégançon, la résidence d'été élyséenne dans le Var, a téléphoné aujourd'hui au roi de Jordanie, Abdallah II. Le président de la République annonce une contribution française au maintien de la sécurité le long de la frontière avec la Syrie, alors que se pose la question de la réouverture de cette frontière vitale pour les échanges commerciaux entre la Syrie et la Jordanie. En Afrique du Sud, maintenant, la mort suspecte d'un ancien policier suscite doutes et interrogations. Marc Mini, âgé de 58 ans, était retrouvé tué d'une balle dans la tête. Il était co-auteur d'un livre intitulé The Lost Boys of Bird Island, en français Les Garçons Perdus de Bird Island, sorti au tout début de ce mois. Un livre qui accuse de pédophilie de hauts dignitaires du régime de l'apartheid dans les années 80. Les précisions de Lisa Fabian en ligne de Johannesburg.
Pour ses éditeurs, la mort de Marc Mini est aussi soudaine qu'inattendue. Jamais l'auteur du livre The Lost Boys of Bird Island n'avait évoqué l'idée d'un suicide, selon eux. Pourtant, le porte-parole de la police sud-africaine a confirmé qu'une lettre d'adieu a été retrouvée près de son corps, qui gisait dans les buissons d'une ferme appartenant à l'un de ses amis. Sa dépouille portait une blessure par balle à la tête. L'arme à feu a également été retrouvée. Même si la police semble rejeter toute piste criminelle dans cette affaire, la journaliste Chris Stein, qui a coécrit ce livre avec Marc Mini, a révélé avoir reçu de nombreuses menaces de mort depuis la publication de l'ouvrage il y a 2 semaines. Malgré leur crainte d'apparaître en public, il semble que les 2 auteurs poursuivaient leur enquête. Marc Mini aurait même rencontré de nouvelles sources la semaine dernière. Les hauts dignitaires de l'apartheid mis en cause dans ce livre ont pour la plupart disparu. L'ancien ministre de la Défense, Magnus Malan, est décédé en 2011. Un homme d'affaires et un autre anciens ministres impliqués dans ce réseau pédophile se sont suicidés il y a plusieurs années. Un autre responsable politique dont le nom n'est pas cité, dont le livre serait en revanche toujours vivant, la police a ouvert une enquête après la publication de l'ouvrage.
Lisa Fabian à Johannesburg. C'était joué d'avance. Le parti de Hun Sen, l'homme fort du Cambodge depuis 33 ans, a remporté la totalité des sièges au Parlement à l'issue d'un scrutin législatif organisé fin juillet sans aucune opposition. Hun Sen sera donc reconduit dans ses fonctions. Le premier ministre, et cela pour les 5 ans qui viennent, sous le regard bienveillant de la Chine, principal allié d'un régime qualifié de dictatorial par les opposants en exil. En Afghanistan, situation toujours chaotique. Un attentat à Kaboul a fait aujourd'hui 48 morts dans la capitale, dans un quartier à majorité chiite. Attentat sans doute perpétré par l'État islamique. Les talibans, pour leur part, ont attaqué dans le nord un poste tenu par les forces gouvernementales, faisant là également 50 de morts. Seule éclaircie pour les forces gouvernementales, la reprise de la ville de Ghazni dans le centre du pays, après 5 jours de combat avec les talibans. Dans cette période de vacances politiques en France, offrons-nous maintenant un petit coup de projecteur sur la nouvelle génération de militants et leur positionnement sur un échiquier complètement chamboulé, faut bien le dire. Ça fait un peu plus d'1 an que les jeunes républicains n'ont plus de président. Quant au mouvement des jeunes socialistes, il a littéralement explosé après le départ de sa présidente chez Génération, le parti de Benoît Hamon, revue d'effectifs avec Lucas Caltritti.
Éric Tegner n'est pas le favori pour devenir le prochain président des Jeunes Républicains, mais le Breton de 24 ans veut faire entendre ses idées. Pour lui, il est temps de faire une grande coalition de droite avec Marine Le Pen et Nicolas Dupont-Aignan.
Les enjeux de cette campagne, c'est d'essayer de restaurer une forme de radicalité en politique pour parler justement à toute une jeunesse de droite qu'on a perdue, une jeunesse conservatrice qui par exemple a été issue des Manifs pour tous, une jeunesse identitaire qui se sent dépossédée culturellement. Aujourd'hui, il faut essayer de sortir de ces luttes d'appareil dans lesquelles aujourd'hui les Républicains sont mis et être capables de dialoguer avec des partis comme le Rassemblement National ou avec Debout la France. Donc l'objectif, c'est d'aller à la reconquête de toute cette jeunesse qui aujourd'hui, d'ailleurs, parfois ne vote quasiment plus.
Pourtant, Laurent Wauquiez a insisté, pas d'alliance entre LR et le Rassemblement National. Et c'est sur un désaccord politique que Roxane Lundy a quitté la présidence du mouvement des jeunes socialistes. Désormais, aux côtés de Benoît Hamon, elle a tout simplement souhaité être en accord avec ses convictions.
On s'est dit que l'outil militant qui devait être notre aujourd'hui, c'était celui de Génération. C'est là qu'on se pose les vraies questions. C'est là qu'aujourd'hui, la gauche recommence à se poser des questions qu'on ne se posait plus depuis longtemps aussi, hein. Notamment sur le revenu universel d'existence, sur la dimension écologique qui est absolument centrale au sein de Génération. Et on vient y apporter notre énergie militante.
Génération ne se prononce pas sur le nombre de jeunes que compte son organisation, mais assure qu'ils sont actifs, ils ont tracté tout l'été.
Les précisions de Lucas Caltritti. Des effets bénéfiques de la sécheresse, et on en terminera par là. Au Royaume-Uni, les archéologues jubilent en ce moment. L'observation des terrains brûlés par la grande chaleur estivale révèle une multitude de sites préhistoriques, des vestiges néolithiques au nord de Londres ou encore dans les Cornouailles. L'occasion de parler de la tendance météo pour demain. Le soleil va briller plutôt généreusement un peu partout. Le mercure ira de 13 à 22 degrés pour les minimales, entre 24 et 29 pour les maximales, jusqu'à 33 degrés en majorité. Fin de cette édition préparée avec Caroline Bento. Vous retrouverez demain matin pour le premier journal à 7h. Sophie Delpont, excellente soirée à tous.